Bonjour, c'est le quatrième épisode de notre série consacrée aux femmes et au rock féminin en particulier. Donc autour de la table, Christophe,
hey,
de Roxette, Véro,
salut,
et Timo,
Emilior.
Voilà, de The First Time I Met the Blues. Donc aujourd'hui, la thématique, on s'intéresse aux voix rebelles, les nanas qui sont révoltées, devenues stars, Christophe.
C'est ça, on est obligé de faire au moins une émission sur cette grande dame.
On est obligé d'en faire une, on en fera deux d'ailleurs.
Ouais. On s'est quitté à la fois précédente sur Nina Simone, qui était aussi une méga grande figure. Mmh. Mais là, on est obligé de poser un peu les valises pour s'attarder sur quelques personnes, quelques femmes qui restent très présentes dans notre vie actuelle, qu'on écoute encore très très souvent. Mmh. Et faire le point sur chacune d'elles avec leur parcours, en quoi elles ont été des personnes contestataires à l'ordre établi, ça peut être intéressant.
On parlera d'Aretha Franklin, Coco Taylor et Janis Joplin dans cette émission. On commence, Timo, avec Aretha Franklin.
Avec Aretha Franklin, une des plus grandes chanteuses soul, née à Memphis en 42, encore quelqu'un du Sud.
Encore vivante.
Voilà, encore vivante. Oui, elle est vivante. D'accord,
qui met des beaux manteaux de fourrure actuellement avec des belles choucroutes sur la tête.
Donc elle est du Sud, elle déménage à Détroit, son père est pasteur. Il était connu,
Il était chanteur,
il faisait des 45 tours, il tournait, il était dans le monde de la musique en tant que pasteur, musicien. Elle est autodidacte piano, chant, elle joue à l'église, comme d'habitude, hein, le même cinéma, enfin
le même parcours,
excusez-moi, je suis vulgaire.
Pendant pas mal de temps, elle est avec son père, elle joue avec son père, mais en fait c'est uniquement des chants religieux et au bout d'un moment elle se dit, elle est quand même attirée par autre chose.
Ouais, elle est tenue à distance des musiques dites profanes, c'est un peu...
Par son père,
qui sortent de l'église. Mais elle est quand même attirée par les nouvelles sonorités du rhythm and blues, à l'époque c'était nouveau, donc son père s'y oppose, car uniquement favorable à la parole de Dieu, voilà, le gospel. En 1950, elle accompagne son père en tournée, elle est approchée par la Motown, elle est repérée par quelqu'un. Son père, bien évidemment, refuse, mais finalement, elle s'émancipe début 60, c'est vraiment le terme, parce qu'elle était jeune, quoi. Elle connaît immédiatement le succès, elle fait des reprises de Billie Holiday notamment. Elle chante aussi des love songs naïves qu'on a écoutées précédemment, il y a quelques émissions, donc jusqu'en 67, où elle prend un virage soul, enfin, avec I Never Love a Man, des paroles qui traduisent la prise de conscience d'une femme maltraitée et dépendante de l'homme. Donc encore une fois, on vient sur des thématiques d'une femme qui veut se sortir des griffes
et qui dénonce la condition de la femme. Dans I Never Love a Man, elle dit tu es un menteur et un tricheur, je ne sais pas pourquoi je te laisse me faire toutes ces choses, sous-entendu mauvaise, quoi. Enfin, il devait sans doute la maltraiter, cet homme là
ouais, tout à fait.
On écoute le morceau
I never loved a man.
You're no good heartbreaker. Oh, I am a cheat, and I don't know why I let you do these things to me. My friends keep telling me that you ain't no good, but oh, they don't know I'd leave you if I could.
Thank you.
your baby's gone. But if you ever wanna call, pick up your telephone, and oh, you can bet your baby that I'll come running home. So you know how it is, and you know just how I feel. I tell you, I ain't never, 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 never loved a man the way that I love you.
I Never Love a Man, Aretha Franklin. Voilà, donc elle gagne des Grammy Awards en, des Grammy Awards en 68 pour le titre Respect.
Oh là, Respect, c'est un excellent titre, ça. C'est un excellent titre. Et je suis sûr qu'évidemment, vous savez qu'elle a fait ça en réaction au tube de Otis Redding, qui avait pris des positions qui n'allaient pas dans la direction qu'elle souhaitait. Et donc, elle a fait une réaction directe, clic-clac, et elle en fait un tube énorme.
Ouais, tout à fait. Et notamment, elle rentre au Rock'n'Roll Hall of Fame.
Encore une.
Voilà, encore une.
Panthéon, quoi.
Eh bien, on va continuer avec un autre artiste. Une autre artiste.
Ouais, bien sûr, évidemment. On se consacre principalement aux femmes, hein, dans cette série. Donc là, c'est Coco Taylor, donc née en 1928 près de Memphis. Elle, alors, comme tout le monde, hein, on se répète un petit peu, mais elle chante au début dans des chorales religieuses. Et après, elle se met au blues et hop, elle monte à Chicago. Et là, rencontre avec Willie Dixon, le pilier de Chess Records, enfin le, comment dire, j'ai un peu l'impression que Willie Dixon,
c'est
il planait au-dessus, c'est lui qui disait au frère Chess, tu fais rentrer celui-là, t'enregistres machin, tout ça. Et donc elle, Coco Taylor, elle a de la chance parce qu'elle rencontre Willie Dixon en 62, donc il lui obtient un contrat. Elle chante Wong Dong Doodle. C'est pas le morceau qu'on va vous passer, mais allez pianoter sur internet. Il vaut franchement.
Elle le chante avec Willie Dixon d'ailleurs.
Exactement, en duo. Et donc après la rencontre avec Willie Dixon, elle enregistre un morceau assez significatif qu'on va écouter dans quelques instants. Et c'est Love You Like a Woman. Et donc dans ce morceau, on se rend bien compte que c'est une chanteuse et une femme affirmée et combative aussi. Elle tient aussi à dire que maintenant dans le foyer, la femme, elle a une place importante. Et dans les paroles de Love You Like a Woman, elle s'adresse à un homme et elle lui dit, je veux que tu comprennes bien, je peux t'aimer comme une femme, mais je peux aussi te battre comme si j'étais un homme. Est-ce que t'as bien entendu ce que je venais de te dire?
Elle l'interpelle, voilà.
Exactement, elle interpelle
le... Comme si elle interpellait son mari, quoi.
Exactement, donc allez, hein, Love You Like a Woman de Coco Taylor. I always thought that a man should be boss in his home. But how can a king run his castle when he's always gone? Listen, try to do the things for you that a woman should do. You take me for granted, baby. You must think I'm some kind of fool. But here's some food for thoughts, and I want you to understand. I can love you like a woman, but ow, I so find you like a man.
Tell the truth.
Hear what I say.
It's all right.
You rush out and think your time coming in. And just how I've always been. You've been treating me like piece of wood since I don't know when. But I'm a peaceful woman. I know violence is no good, but I can't demonstrate to you to be understood. So I'm gonna tell you in plain English, just as plain as I can. I'm gonna love you like a woman, but said to me, Love You Like a Woman de Coco Taylor. On enchaîne tout de suite avec un autre morceau où elle met vraiment la femme en avant, I'm a Woman, donc ça peut pas être plus clair que ça, hein.
Clair
et en fait c'est elle a décliné le titre I'm a Man de Muddy Waters et elle a réécrit l'ensemble des paroles à la gloire des femmes, quoi, tout simplement.
So my mama told me the day I was grown, she said, sing the blues, child, sing it from now on. I'm a woman, oh yeah, I'm a woman, I'm a ball of fire. I can make love to a crocodile. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old and new. Spell W-O. M-A-N. Oh, yeah. That means I'm grown. I'm a Russian wind. I'm a woman. I'm cut stone with a pin. I'm a woman. I'm a love maker. I'm a woman. You know I'm a earth shaker.
I'm a Woman de Coco Taylor qui, je suis sûr, a influencé l'artiste que tu vas nous présenter, Christophe.
Ouais, là, on attaque des très très grosses pointures à mon sens, ouais, rock, Janis Joplin, qui est d'une nature assez incroyable. Donc déjà, milieu conservateur aussi chez ses parents dans le Texas, elle se sent pas du tout bien dans sa peau. Elle prend ses valises, elle se tire directement là où il y a de la vie sur le moment, c'est-à-dire San Francisco. Et puis, dès le premier soir, elle se met à chanter dans un bar. Et là, c'est open bar pour tous les excès, parce qu'elle, elle ne fait pas semblant avec tout ce qui est drogue et alcool. Elle consomme par tous les deux bouts. Sexuellement, elle jette son dévolu sur tout ce qui passe. les femmes, les hommes.
Nos limites.
Ouais, nos limites. Ah, et déjà aussi, c'est un petit peu anticipé sur la fin. Mais c'est notre seule représentante du célèbre club des 27, donc elle a une vie extrêmement courte, à 27 ans, tout est réglé, elle a tout consommé, et voilà, elle est partie, et néanmoins, elle est toujours là, parce qu'on parle, et on écoute encore très très souvent Madame Janis Joplin. Donc, sur les campus de San Francisco, eh ben, elle a une aura naturelle assez importante. Elle incarne l'émancipation. Même
si on se moque de son physique, quand voilà, même,
elle a, on l'appelle a souffert,
hein, notamment voilà, le mec ouais. le plus laid du campus. On l'appelle voilà,
pas ouais. facile à porter. Ouais. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a ce surnom, quand on voit le petit carnet de ses amis,
ses petits amis ouais.
d'un soir généralement, hein, mais Jimi Hendrix, Jim Morrison, Eric Clapton, vas-y. Mmh. Bon, bah,
elle devait être belle à l'intérieur.
Ah, elle devait être magnifique. Elle devait être magnifique. Et donc tout ça pour dire que elle avait quand même aussi donc une personnalité très très alambiquée, très parfois même ambiguë, et de par nature les féministes la laissaient à distance parce qu'ils savaient pas trop comment elle allait réagir à chaque fois. C'était toujours très inattendu. Et donc du coup bah, elle était quand même seule hein, à l'arrivée de tout cela. On peut peut-être s'écouter un premier morceau avant de revenir sur la suite de sa carrière.
Ouais, un morceau de son premier groupe, donc Big Brother and the Holding Company, l'album Cheap Thrills, qui est devenu légendaire, Turtle Blues.
C'était Turtle Blues.
On sent le blues là.
Non, oui, bah, oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment. Et puis on sent déjà toutes les tripes, quoi. la manière dont chante Janis Joplin, c'est voilà. Ouais, ça y est, j'ai les poils qui se dressent là déjà. Donc elle devient la star féminine du rock de l'époque. Après, elle quitte son groupe et en forme un nouveau. Cosmic Blues Band, je pense que...
Le dernier, d'ailleurs.
Le dernier, voilà.
Non, exactement. L'avant-dernier.
Ouais, parce qu'elle a fini par du solo, elle, normalement.
Ouais,
elle
n'avait
plus aucun groupe.
Ah oui, c'est vrai, elle a viré tout le monde.
Il y a son manager qui...
Pardon, Véro, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai, moi j'étais restée là-dessus.
Je pensais que c'était le dernier.
Merci les gars.
Non, c'est de ma faute.
Donc ensuite, les concerts s'enchaînent et malheureusement, elle sombre un peu plus chaque jour dans les excès que tu as dit, Christophe, voilà. Et puis elle rebondit, elle reforme un nouveau groupe au début des années 70. Elle fait un enregistrement en studio de l'album, du fameux album Perle.
On ne peut pas passer sous silence ses prestations scéniques dans les deux grands festivals de fin des années 60 à Montreux et puis à Woodstock. Si tu vois une image de Woodstock, souvent c'est Janis Joplin, Hendrix, souvent c'est les deux qui sont mis en avant.
Elle est devenue une icône de la pop culture, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des hippies en tout cas.
La contre-culture.
Bien
sûr. Donc, le morceau qu'on va écouter de l'album Perle s'appelle Trust Me.
Et simplement, excuse-moi, je reviens sur le truc. Parce
toi, t'aimes les lunettes de Janis Joplin.
Exactement, c'est parce que là, tout à l'heure, on mentionnait le fait que c'était l'étudiant le plus laid de San Francisco, en gros, mais jusqu'à nos jours, là, pareil, elle a influencé la mode, alors qu'elle a été sapée
comme elle voulait.
C'était sa façon de s'habiller.
Rappelle-toi, Christophe, elle était sapée comme nous, on était sapés quand on avait son âge. Hein.
Ouais, mais j'ai pas le même âge qu'elle. Hein. J'étais directement influencé par Janis Joplin. Non, mais c'est ça, elle a réussi à influencer tout un courant vestimentaire et tout. Alors que tout le monde se moquait
pendant
d'elle.
Des décennies, ouais.
Voilà, je te laisse la parole, Véronique, excuse-moi.
On va surtout écouter Janis Joplin. Trust me.
Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. As it cries. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Baby, just need time to grow. It's going stronger day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. In my arms, in my love. Don't turn your face away from it, dear.
Trust me, Janis Joplin, qui ne finit pas cet enregistrement. L'album est sorti donc à titre posthume, comme un hommage silencieux à la chanteuse. Chapeau bas.
Oh, comme c'est bien dit. Bon, bah alors on va se taire aussi.
Bah, exactement.
On va laisser la parole à Ben.
Ouais. Voilà.
Ouais. Vas-y, Ben, c'est à toi. Et nous, on se retrouve pour le volume 5.
Ouais, et ben on continue avec les rebelles.
Les grandes chanteuses.
Ouais, on se fait une deuxième, parce qu'il y a beaucoup à dire. Hein. Donc, allez, vas-y, Ben, attaque.
Bon, vous êtes toujours là, les filles ? Toujours en compagnie de Peggy, toi, qui nous observe dans tous les commentaires. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Michel. Alors, Michel, c'est les années... tout début des années 60. Michel, c'est une teddy girl. Donc, voilà, qui se trouve confrontée à ce que l'on appelait à l'époque les teddy boys. Elle n'aime pas son nom, déjà, Michel. Donc, Michel, c'est Michou. Et elle n'aime pas non plus les robes que sa mère lui achète. Toi, elle n'aime pas sa façon dont son beau-père la regarde. Puis, elle étouffe à la maison, dans cet appartement froid, dans ce confort moderne, au 23e étage d'un grand ensemble, avec vue imprenable sur la zone. C'est un terrain vague, la vague à lame et à lame de pierre. Michou, elle est dure. Elle se fait appeler Michou, d'ailleurs. Elle s'habille en blue jean, qu'elle s'offre avec son maigre argent de poche dans les stocks américains. Michou, c'est une chef de bande de la cité dortoir. Elle est avec 15 mauvais garçons sous son aile. Ils lui ont fait serment de fidélité. Tu l'ennuies en montant de petits coups, se serre les coudes dans une société qui lui est indifférente. Alors c'est le temps des blousons noirs, les amateurs de rock'n'roll et de belles mobilettes. Terreur des Français moyens et fonds de commerce des journaux populaires à la veille des années 1960. Dans cet univers machisme, certaines filles font la loi, suscitant l'inquiétude des observateurs qui y voient le signe d'une crise morale. Michou inquiète ses parents. Elle ne rentre plus tous les soirs. Sa mère la conduit devant le juge des enfants, qui la rappelle à son rôle de femme et de future mère. Le juge ordonne une expertise. Michou est placé 2 mois au centre d'observation de Chevilly pour suivre un certain nombre de tests, mesurer ses capacités intellectuelles, mais surtout sa docilité sociale. À Chevilly, face à la psychologue, Michou pousse toujours plus loin le défi. Elle s'imagine dans une rédaction libre, chef d'une bande de filles rebelles, vol de voitures, course-poursuite avec les flics à Pigalle et la gloire au bout de la fuite. Le défi lancé aux hommes de l'ordre par de jeunes Amazones qui n'ont pas dit leur dernier mot et ne sont promis d'en vouloir au poulet subversif. Michou joue avec le feu. Elle est placée à l'internat de rééducation. Née au 19e siècle, ses institutions déclinent et tentent de rendre la parole aux jeunes. Curieux subterfuge que de jouer cette petite musique de la liberté dans un espace irrémédiablement clos. S'agirait-il de dompter les filles par d'autres moyens ? L'autodiscipline, Michou est perplexe. Et pourquoi, dans le même temps, les éducatrices lui administrent-elles des rhénoleptiques ? Nouvelle panacée d'une psychiatrie qui a renoué avec un scientisme magique. Conscient de ses contradictions, Michou refuse le jeu de dupe et attend son heure. Bon, toujours avec nous les filles, toujours en compagnie de Peggy, qui surveille un petit peu tout ce qu'on a à dire. Voilà. Eh ben, avec Peggy, on va me parler de Mépicré. Alors Mépicré, moi, c'est une dame que j'ai lue il y a très longtemps, c'est une dame que j'adore. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame ? Alors déjà, Mépicré, de son vrai nom, Marie-Jeanne Picré, elle est née le 8 juillet 1898 à Savenay, en Loire-Inférieure, ce qu'on appelait à l'époque Loire-Atlantique. Alors de François-Marie Picré, de Marie-Louise, François-Lauré. Alors elle est décédée en 1983 à Paris. Alors c'était une militante, une anarcho-syndicaliste et antimilitariste libertaire. Alors naturellement attirée dans sa jeunesse par la révolution soviétique, elle fait un premier voyage. Dès 1922, à l'occasion du congrès de l'Internationale syndicale rouge à Moscou, au cours duquel elle monte sur la table pour dénoncer les congrétistes en train de se gober alors que le peuple soviétique crève de faim. Elle refuse de serrer la main au généralissime Trotsky, qui à elle était pourtant venu demander la libération de camarades anarchistes emprisonnés par les bolcheviks. Figure importante du milieu libertaire, Mépicré est surtout connue pour être la fondatrice du journal des amis de Louis Lecoing, Le Réfractaire, organe libertaire pour la défense de la paix et des libertés individuelles. Elle a fait paraître ce mensuel du 1er avril 1974 jusqu'à sa mort le 2 novembre 1983. Soutenue jusqu'à là par de nombreux artistes objecteurs de conscience et des dessinateurs du Canard Enchaîné, Moisan, Cardon, Escarot, Pinozac ou Plantu, Dominique Didier, Le Bornec, Rich, voire dans son ouvrage « Mère la réfractaire ». Féministe avant l'heure, Mépicré a voulu, en femme indépendante, sans se priver de fonder une famille. Elle a donc élevé seule ses 3 enfants, nés de 3 pères différents. Mariée à Saint-Nazaire le 2 juillet 1916 avec Fred Schneider, de nationalité hollandaise, elle s'en sépare 3 semaines plus tard. En 1923, elle met au monde une fille, Sonia, conçue pendant son voyage en Russie. Puis en août 1930, elle épouse François Niel, dont elle aura un fils, Lucien. Enfin, en 1941, en pleine guerre, elle met au monde une fille, Marie-Mée, qu'elle a conçue avec Isaac Gilman, juif biélorusse réfugié à Toulouse. Camarade de Louis Lecoing, Mée est associée à tous ses combats et a poursuivi sa vie de militante après la mort de ce dernier. Enthousiasme de mai 68, Très engagée au Larzac, elle a participé à toutes les campagnes antinucléaires et soutenu les objecteurs de conscience et les réfractaires au service militaire. Selon sa volonté, Mai Picret a été incinérée quelques jours après son décès au Père-Lachaise. Depuis 2015, un jardin lui rend hommage au niveau du 94 boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement de Paris. Mai Picret était une des figures du syndicat des correcteurs. Elle fut notamment correctrice à Ce Soir, Libération et pendant 20 ans au Canard Enchaîné. Elle a une bibliographie que je vous recommande, c'est Mai Picret, 1898-1983, une mémoire du mouvement anarchiste par Olivia Gomolinski, mémoire de maîtrise. Et Mai Picret, une réfractaire, une libertaire, une femme libre, collection aux éditions libertaires, Graines d'Ananar, 2004.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur studiosf91.1 ou à podcaster sur studiosf.fr. À très bientôt.